Allez les gens.
Plus vite, plus fort. Aujourd'hui, solitude du coureur de fond avant la crevaison, ce genre de crevaison qui suscite de nombreuses interrogations. Coulisses de l'exploit, enfer envers du décor et des corps. Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf et des images sonores de Yann Parantoine. Le vélo dopé.
Ici le Tour de France. Je dis ici le Tour de France parce que au moment où nous enregistrons cette dernière émission consacrée aux commentaires de ce 42e Tour de France cycliste organisé par l'équipe et le Parisien Libéré et qui a vu le triomphe total de Louis-Jean Bobet, eh bien nous sommes encore au Parc des Princes et les bravos crépitent encore, les acclamations déferlent des gradins et les tours d'honneur se succèdent les uns aux autres. Il nous faut tirer maintenant très rapidement les leçons de ce Tour de France. La première leçon, je pense qu'on peut tirer, c'est que la Tour de France 1955 a été dominée par la personnalité de Louis-Jean Bobet. On a tellement dit au départ que c'était Louis-Jean Bobet qui devait le gagner, que à force de dire que Louis-Jean Bobet le gagnerait, il a fini par gagner le tour. Mais surtout, cet état d'esprit, cette sorte de psychose qu'on a créée autour de Bobet, a fait perdre le Tour de France à ses adversaires. Entendons-nous, je ne veux pas diminuer par là la victoire de Louis-Jean Bobet, qui, je vous le rappelais tout à l'heure à l'émission de l'arrivée, est le troisième depuis la création du Tour à ne gagner le Tour de France qu'avec 4 minutes à 5 minutes d'avance. Speicher ayant été le premier...
Un accordéon, un nom, Bobet, et voilà la légende. Le Tour de France, le vélo, le cyclisme, une passion, une ancienne passion déjà. Pour tous, il suffit de dire ces noms magiques, Bartali, Darrigade, Anquetil, Eddy Merckx, Pouilly d'Or, une légende. On se souvient tout de suite avec ses accordéons, avec ses noms, avec ses commentaires, avec ses voix, de ses bonheurs, des épaules du père, du panier de pique-nique de la mère sur le talus, la casquette Ricard et le bonheur de voir passer la caravane et peut-être Yvette Horner et son grand chapeau et son accordéon. C'était le bon temps, c'était la légende, c'est une merveille, c'est un enchantement, c'est nos héros populaires. Et puis avec les années, et ben petit à petit, on est passé de l'autre côté. On a compris peu à peu que derrière ces exploits, derrière ces rêves, derrière ce rêve, c'est un mot très employé par les commentateurs sportifs, le rêve, eh ben, c'était pas très beau, c'était pas très frais, c'était pas très vrai non plus. Un énorme scandale derrière ces exploits, derrière ce principe du plus haut, plus vite, plus fort, qui est le dopage. Alors avec Thierry Scharf, on a voulu, nous qui ne sommes évidemment pas des spécialistes, et peut-être parce que on n'est pas des spécialistes, on a une chance d'apporter un éclairage un petit peu différent. On a voulu comprendre comment ça marche, cette histoire de dopage, comment ces sportifs, comment les commentateurs, comment les uns et les autres marchent dans cette combine, et finalement, à part quelques secrets qui apparaissent de temps en temps et qui sont qui suivent à des accidents ou des morts qui posent des problèmes, qui sont ces hommes qui se sont tus et qui se taisent tant. Alors voilà, on va rencontrer retrouver quelqu'un qu'on a pas mal entendu ces dernières années, mais qui maintenant a changé, a pris du recul, qui s'appelle Willy Voûte. Et ce cet entraîneur qui était notamment l'entraîneur de Richard, entraîneur et soigneur de Richard Wieringue. Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment, avec le temps, au calme, aujourd'hui, voit-il ces époques? Alors que les caméras sont reparties, les micros sont ailleurs. Comment est-ce que la fin justifie les moyens? Et pourquoi est-ce qu'on se défonce comme ça? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, ou à nouveau, on constate affolé que les gamins fument du cannabis, alors que dans notre culture, au fond de notre culture, il y a Astérix et sa potion magique? Pourquoi? De la potion magique à la potion tragique. C'est jusqu'à 18h sur Inter, c'est la basse suggestion.
5 kilomètres après le départ de Bordeaux, les coureurs, mécontents de ces opérations anti-doping, désobligeantes pour eux, les coureurs descendirent de bicyclette et observèrent un arrêt de travail de 5 minutes. C'était la première grève des coureurs cyclistes. Jacques Anquetil en avait été l'un des instigateurs.
Pour manifester notre mécontentement, parce que hier les coureurs ont été contrôlés et on n'admet pas quand même, on veut bien que ce soit la loi, mais c'est pour tous les Français la même chose et pas uniquement pour les sportifs ou les coureurs cyclistes.
Que préconisez-vous alors, vous, Jacques Anquetil, qui êtes en fin de carrière, qui avez couru pendant 12 années chez les professionnels et qui ne vous portez pas trop mal, en jugé par les œufs sur le plat, les sandwichs que vous venez d'avaler?
Pas le mieux, ce serait de jamais reparler de doping, c'est surtout ça.
Voici le communiqué du docteur Dumas. Le coureur Tom Simpson, tombé sur la route 3 km avant le sommet du Ventoux et relevé dans le coma, a été immédiatement traité par tous les membres du service médical du Tour qui ont usé de toutes les techniques de réanimation. Après une légère amélioration, le coureur Tom Simpson a été transporté par l'hélicoptère de la gendarmerie sur le centre hospitalier d'Avignon. La réanimation s'est poursuivie à bord sous la responsabilité du docteur McCorrig. À l'arrivée à l'hôpital d'Avignon, Tom Simpson était en état de mort apparente. Les services spécialisés de l'hôpital ont poursuivi sans succès la réanimation. Tom Simpson est décédé à 17h40. Les médecins concernés ont décidé de refuser le permis d'inhumer. Signé Dr Dumas, médecin du Tour de France.
Moi, je veux bien qu'on dise des choses, mais que ça soit béton, quoi, ce qu'on dise. On insinue des choses qui sont irrecevables.
Pour ma part, j'ai rien à voir avec cette affaire. Si on nous empêche de partir, il faudra constater par un huissier de justice, comme quoi, on ne peut pas partir.
On n'a été jamais sujet à un contrôle positif et on nous suspend, parce qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, parce que ça nuit à beaucoup de monde, donc... C'est sûr, on s'arrête. D'accord, ok.
S'ils nous poussent à changer de nationalité, on ira peut-être voir ailleurs, hein, parce que pour l'instant, la France est pas trop chaleureuse avec nous.
Il faut arrêter. Moi, mon jour d'aujourd'hui, je suis très fier de montrer tout ce qu'il y a dans mes analyses et qu'on arrête de me dire « Oh, on va te prendre du sang-corps, on va te prendre du muscle, on va te prendre... » Mais attendez, il faut arrêter, là. Je suis innocenté et encore aujourd'hui, vous allez me demander de me prostituer pour faire quoi ?
Vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et je donne rendez-vous à l'année prochaine.
Adrénaline, endorphine, électrolyte, coenzyme, carbohydrate, protéine, A, B, C, D, vitamine.
Wieringue 98, Tom Simpson 1967, Jacques Anquetil 1966. À quand ça remonte, la dope et la triche dans le vélo? On pourrait remonter même avant l'invention du vélo, depuis la nuit des temps. Dans la nuit des temps même, l'homme a cherché à s'envoyer en l'air avec des potions magiques, avec des combines, avec même en sautant sur ses pieds, simplement en sautant sur ses pieds, à trouver les moyens, oui, de force surnaturelle et naturelle à la fois, pour aller plus loin, pour aller plus fort, pour aller plus haut, pour aller plus vite, pour transgresser, pour outrepasser, pour aller au-delà des limites, de ces limites. Ainsi sommes-nous, nous autres, qui constituons l'humanité. On est ainsi. Et ça vaut pour le corps, ça vaut pour l'esprit, ça vaut pour tout. Sauf que le sport arrive à nous avec ses vertus habillées de vertus édifiantes, de valeurs, de pureté, d'ordre. Par derrière, on s'en doute, mais on ne veut pas le croire, parce que le rêve, le plaisir, la compétition, le jeu, etc., nous fait qu'on ne veut pas trop savoir comment c'est fait. Quand on va au restaurant, on ne fait pas la cuisine. Alors, c'est quand même du côté de la cuisine qu'on va aller. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que ça pue dans cette cuisine, ce petit document. Avec la voix de Jacques Anquetil de 1966, c'est pas un début, c'est pas du tout un début. Ça fait très longtemps que dans le vélo, mais dans d'autres sports, on le découvre, on l'a découvert peu à peu. On se dope, on triche, et c'est quand même assez préoccupant. Alors on a tout dit là-dessus, on a dit des choses, on a dit le contraire. Et on essaye toujours d'euphémiser. C'est un milieu avec des intérêts, avec des pressions, avec des chiffres d'affaires absolument faramineux que celui du vélo et du sport en général. Et chacun, évidemment, veut garder son petit carré de fromage. Sauf, il y a un jour, il y a un accident, ça casse, et il y en a un qui parle. C'est le repenti, c'est le traître. Mais c'est pas toujours celui qui ment le plus. Exemple, donc, Willy Voet, qui a été condamné, qui a fait de la prison, qui vit maintenant comme un noble libre, qui a réfléchi et qui nous parle.
Dans ce milieu, qu'est-ce qu'on fait pas?
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on fait pas? Ça parle que de ça.
Ah oui?
La dope, le sexe, les femmes et les voitures.
Ah oui.
Ça, c'est la conversation le soir à table et voilà. On parle jamais de politique, là. Hein. Festina, c'est du montre, donc. Ils sponsorisaient notre équipe et ils sponsorisaient aussi le chronométrage des Tours de France. Encore aujourd'hui, je crois. Et nous, après l'affaire Festina, après mon arrestation, ils ont viré l'équipe cycliste. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et certains temps après, je sais pas, quelques mois après, j'ai lu dans un article, dans un journal, que le responsable de marketing de Festina disait que cette affaire Festina, c'était pas si mauvais pour le vente de montres, parce qu'ils avaient vendu, je crois, 18 millions de montres. 18 millions de montres. Alors, c'était pas une perte pour tout le monde, quoi. Par contre, moi, j'ai tout perdu.
Willy Voet, vous étiez soigneur, hein. Et puis,
exact, ouais.
Vous êtes l'homme par qui le scandale arrive, hein. Vous faites partie de l'équipe Festina, et en 98, vous êtes pris par la police à la frontière belge.
Par la douane, ouais.
Par la douane, mm-hmm. Avec une quantité importante de produits interdits. Votre vie a basculé à partir de là.
Mais bien sûr que ma vie a basculé ces jours-là. C'est vrai, au départ, de chez moi, j'avais tout pris mes produits que j'avais achetés, que j'avais achetés avec notre manager à l'époque. Ma femme, elle voulait pas que ça restait dans le frigo.
Il y avait quoi alors? Il y avait quoi, Willy, dans ce...
Il y avait 200 doses de l'EPO, presque autant de hormones de croissance, il y avait de testostérone, il y avait de corticoïdes, enfin, il y avait tout pour faire marcher un sportif à haut niveau.
Tout ce que prend le peloton dans le Tour de France, quoi.
Ben oui, la plupart, oui. Nous, on discute avec nos collègues de travail, d'autres soigneurs, qui font le même boulot que moi, donc un journaliste ou un garagiste ou un masseur ou un maçon, et on parle de notre boulot comme tout le monde, donc on sait qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes. Nous, on avait un docteur avec qui j'ai travaillé des années, donc il avait beaucoup confiance en moi et il cachait rien pour moi. Donc pour moi, c'était devenu un patient, la tricherie, c'était devenu un patient, parce que pour nous, c'est pas tricher. Et c'est vrai, mais il y a pas que ça, hein, parce qu'un vrai soigneur, enfin un vrai soigneur entre guillemets, Il s'occupe de beaucoup de choses. D'abord, il masse les athlètes après la course. Il prépare le ravitaillement. Il s'occupe de menus dans les hôtels. Il s'occupe de bagages. Il s'occupe de linge. Il s'occupe de déplacements. Donc, il s'occupe de beaucoup de choses.
C'est la nounou aussi, quoi.
C'est la nounou.
C'est pour ça que vous dites Virenc, Richard Virenc, c'est presque votre fils, quoi.
Ben, c'était un gamin que je tenais beaucoup parce que quand il est venu chez nous, à l'époque, j'étais chez RMO. Il avait 20 ans. Donc, moi, j'avais des années d'expérience. Lui, il connaissait pas grand chose. C'était un jeune qui était très sain. Il avait eu des problèmes familiaux un peu chez lui. Donc, il était attirant. C'était un gentil garçon. Et c'est vrai, je me suis beaucoup occupé de lui, non seulement de dopage, parce que je vous dis, on fait autre chose que ça. Il s'entraînait n'importe comment, il mangeait n'importe comment. Alors toutes ces choses-là, je l'ai appris un petit peu. J'ai pas la grosse tête en disant que je suis pour un petit peu là où il est venu. Et il essaie aussi, mais enfin, c'est dommage que c'est fini comme ça. Et ça m'a fait mal au cœur.
Parce que lui vous a chargé. Lui dit, la formule célèbre, c'est à la suite de mon plein gré.
Voilà, le problème est là. Le problème est là, parce que si je me suis fait arrêter avec le produit, et si lui dit, moi je me suis jamais dopé, c'est son problème, ça me gêne pas. Mais qui dit que j'étais son soigneur et qu'il pouvait pas savoir qu'est-ce que je trafiquais derrière son dos, ça c'était très dur pour moi, et surtout pour ma famille, parce que ma famille, elle savait bien combien il comptait pour moi. Je le voyais plus que mes enfants. Je croyais pas, parce qu'entre-temps, moi, j'étais en prison. Et ils savaient très bien que c'était pour l'équipe, et on était là, surtout cette année-là, on était là pour gagner le tour. Ils savaient bien qu'on peut pas la gagner à l'eau claire. Ça, c'est sûr.
Et ils savaient... À l'eau claire.
Voilà. Je peux vous dire, pendant le Tour de France, un cycliste, il prend quand même entre 5 et 10 injections par jour.
Par jour.
Par jour. On avait un laboratoire en Portugal, qui avait notre manager, il avait des amis là-bas au Portugal, et c'est là, par un laboratoire de là-bas, qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Même le produit vétérinaire, il y avait tout. Il y avait tout dans ce laboratoire. Il y avait les PO, hormones de croissance, corticoïdes, testostérone, produits vétérinaires, il y avait tout. Tout le produit qu'on utilisait à l'époque, ils étaient pas détectables, ou on avait des produits masquants. Donc ça, c'était pas un problème.
Que ce soit détecté, enfin les tests, ça vous posait pas trop de problèmes, les tests?
Ça, c'est parce qu'il faut savoir, avant que je me suis fait arrêter, on n'a jamais eu personne contrôlé positif, donc ça prouve tout. On trouve toujours le produit interdit dans la valise, mais on le trouve jamais dans les analyses. C'est quand même bizarre. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on fait comme on veut au contrôle. Enfin, on fait comme on veut. C'est comme le voleur et les gendarmes, hein. On a toujours 10 longueurs d'avance. On commence à réagir quand le produit est connu par tout le monde. Donc, mais là, nous, en 97, on cherchait déjà d'autres produits.
De remplacement.
De remplacement, parce que ça parlait déjà qu'on allait trouver les PO et tout ça. On cherchait déjà le SRR13, c'est un produit, ou de hémoglobine synthétique, et ça, on cherchait déjà. On avait même envoyé quelqu'un aux États-Unis pour trouver ce produit-là, mais il n'a pas réussi de le sortir de laboratoire. Alors, disons, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se met dans la fesse aujourd'hui? On va le détecter dans 10 ans, peut-être.
Mais il fallait quand même se débrouiller pour pas être vu, pour faire les piqûres et tout.
Ah non, mais ça se fait dans une chambre, ça se fait dans des chambres de coureurs, ça, personne voit ça. Pour aller avoir accès dans une chambre, c'est pas évident, hein, c'est pas possible. Non, si le mec, il était branché avec une perfusion, c'est nous qui avions les clés, il y avait personne qui pouvait rentrer, c'est nous qui rentrions,
Il y a carrément des systèmes de perfusion, ouais, dans les chambres d'hôtel.
Si, oui, mais ça, en général, le plus gros piqûre, c'est le moins dangereux, parce que c'est en général, c'est les petits piqûres qui sont beaucoup plus dangereux. Efficace.
Tous les ans dans le tour ou bien aussi jour, on voit sur la piste, comme sur les chemins, rouler plein d'entrain, nos vaillants cyclistes, et la foule en délire qui toujours les admire pour leur faire honneur sur le parcours, reprend en cœur. Oh, c'est pépère, c'est pépère. Allez-y les petits gars du vélo, pourquoi faire du mystère, car vous êtes la joie du populo. Il faut faire une prière pour que vous remportiez comme gros lot. Un bon verre bien pépère, de pépère, de pépère, de Pernod.
Dans la montée, attention, Raymond Poulidor n'est plus très loin de la ligne d'arrivée, il franchit les derniers mètres maintenant. Raymond Poulidor arrive, il est là sur la ligne, il a du mal à rester sur sa bicyclette même, il continue, nous allons essayer de nous lancer après lui. Raymond Poulidor a continué un peu plus loin, il ne veut pas s'arrêter tout de suite. Raymond Poulidor roule toujours au milieu des spectateurs et nous courons derrière lui. Je pense que Raymond va s'arrêter quand même bientôt ici. Raymond Poulidor, il est vraiment en pleine détresse. Il continue encore un petit peu, je cours toujours après lui, parce qu'il est vraiment intéressant de savoir ce qu'il y a eu. Et nous avons piqué vraiment un sprint pour 200 mètres à peu près.
Éloge du Pernod, un petit coup de Pernod sur le tour pour la joie du populo, un petit coup de pépère, un petit coup de Pernod. Et puis c'est un reportage d'un champion en détresse, sans doute pas forcément dopé, hein, mais la pression, la tension entre cette joie du populo et puis la réalité de ce que vivent véritablement ces champions. De quelques saisons, que deviennent-ils après, comment vivent-ils ça pendant, on découvre peu à peu avec les confidences, les révélations de quelqu'un comme Willy Voet, l'enfer et l'envers du sport. Il est bien évident que il y a toujours eu, on pourra là des grands arguments qu'on vous avance, mais ça a toujours été comme ça, l'homme a toujours été. Oui, mais on est quand même dans une période de compétition à tout prix, on est dans le dogme de la rivalité, et le sport est à la fois le symbole de cette rivalité acharnée entre les uns et les autres, de cette compétition acharnée, et en même temps transporte cette idéologie de la compétition à tout prix, par tous les moyens, il faut gagner.
C'est des jeunes gens, ils sont en pleine forme. Ils pensent pas à 25 ans, on se voit pas 60 ans. Hein. On se voit pas. Et c'est ça, ils sont prêts à tout. Moi, j'ai eu un coureur qui a monté professionnel chez nous, dans notre équipe. Il avait un certain âge déjà, il était pas trop jeune, parce qu'en général, il monte à 22, 23 ans. Mais lui, il avait déjà 28 ou 29 ans, je crois. Il est venu nous voir, le docteur et moi. Il dit, moi, je suis pas à une piqûre près. Il dit, parce que moi, j'ai très peu de temps pour gagner beaucoup d'argent. Alors, il était clair, lui. Ouais. Donc, voilà, ça prouve que les mecs, ils sont prêts à tout, quoi. Et on savait, avec lui, on devait pas se gêner, quoi. On savait qu'on faisait comme on voulait. J'ai connu certains cas à la fin de ma carrière, la grande époque de l'EPO. Le mec, il s'est réveillé la nuit à 2h ou 3h du matin pour faire des pompes, quoi. Ah oui, pour faire des pompes, parce que ils avaient un taux d'hématocrite entre 60 et 65. Ça veut dire que ton sang, c'est presque des sirops, quoi. Alors, ils ont déjà une fréquence cardiaque à 35-40. Alors, le sang épais, et si on dort, ça peut faire un problème cérébral. Donc, le mec, il mettait le réveil, ou c'est nous qui allait le réveiller, et pendant un quart d'heure, il faisait des pompes pour faire circuler le sang.
En pleine nuit.
Et un jour, il y a un coureur d'une autre équipe qui est venu taper à ma porte. Et ma clé, dans ma chambre d'hôtel, il est toujours sur la porte. Parce que il y a toujours quelqu'un qui peut avoir besoin d'un aspirine ou un aide. Alors nous, on avait l'habitude de laisser, le docteur et moi, on laissait les clés sur la porte. Alors, un nuit, j'entends taper quelqu'un à la porte. Moi, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais la clé, elle est pas sur la porte. Bien sûr qu'elle est sur la porte. Mais je me lève quand même, j'ouvre la porte, et le mec, il tombe dans ma chambre. Red. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je dis, je l'appelle, je le tape, parce que je le connais bien. C'était un ancien coureur de chez nous.
Tour de France aussi?
Oui, c'était au Tour de France. Alors, j'ai paniqué, alors. Je suis quand même pas docteur, hein. Je savais pas quoi faire, alors j'ai couru tout de suite à la chambre de docteur. Le docteur, il dit, vite, 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 on l'amène à l'hôpital. On est parti avec lui dans la voiture, parti aux urgences à l'hôpital. Et là, ils ont constaté qu'il avait quand même un taux d'hématocrite de 64. Donc,
ouais, c'est beaucoup ça.
On a sauvé sa vie à ce gars. Et là, on a eu vraiment peur, hein. Là, on a eu vraiment peur parce que c'était pas beau à voir, hein. Moi, je pense que il faisait plus un quart d'heure.
Bonjour.
Bonjour. Des sommets à l'abîme. À 34 ans, la vie de Marco Pantani se termine en tragédie. L'ancien champion cycliste italien a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Rimini. Des boîtes vides de médicaments près de son corps. 98 marque son apogée et aussi le début de sa descente aux enfers entre procès pour dopage et dépression.
Alors la mort du champion Marco Pantani, il y a quelques temps, a évidemment frappé les imaginations dans la série des grandes descentes aux enfers, des champions qui n'en finissent pas de descendre de cette façon. C'est des figures classiques, hein, le héros d'un jour dans la lumière, enfin de plusieurs jours quand même, hein, c'était un grand champion. Et puis cette déchéance fascine toujours, évidemment. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut réguler, contrôler, faire quelque chose pour que... difficile, parce que la question est ancienne, c'est une très vieille histoire. Et puis, il y a un rapport toujours difficile entre les intellectuels et le sport. C'est bien connu, c'est... Ça fait partie des grands clichés. Il y a toujours un soupçon de lorsque les intellectuels évoquent le sport, de mépris de leur part vis-à-vis de quelque chose de populaire, de la joie du populo, comme le disait à l'instant la chanson, si bien que on se suspecte entre la tête et les jambes, hein, la tête d'un côté, les jambes de l'autre. Cependant, il y a quand même un certain nombre de chercheurs, de sociologues qui se penchent et qui s'intéressent au sport et qui travaillent à essayer d'avancer un regard critique sur le sport. Et c'est le cas du mouvement critique du sport. C'est une association qu'anime Michel Caya, sociologue.
Je pense que le dopage est consubstantiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de pratiques compétitives institutionnalisées, c'est-à-dire être dans des championnats, etc., sans... très rapidement tomber dans le piège du dopage ou de la violence. Je pense effectivement que le sport n'est pas un jeu, et c'est ça d'ailleurs peut-être l'essentiel, c'est-à-dire c'est de faire croire, et c'est ce qui marche souvent, c'est de faire croire que le sport est un jeu. Mais pas du tout. Le sport, non seulement c'est un instrument politique, mais c'est aussi lui-même une vision politique du monde, c'est-à-dire que il véhicule un certain nombre de valeurs qui ne sont pas neutres. Et je maintiens effectivement non seulement les valeurs du système capitaliste, mais aussi un certain nombre de valeurs qu'on pourrait mettre en question. La loi du plus fort, parce que le sport, c'est quand même avant tout la production de gagnants, mais aussi beaucoup plus de perdants, évidemment, puisque ce qui compte, c'est d'être premier. On le sait très très bien. Déjà, les deuxièmes, on n'en parle plus. Donc, la loi...
Le sport, c'est la compétition, quoi. Hein?
Ah ben oui, le sport, c'est la compétition, par définition. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Évidemment, si on se met en dehors du système compétitif, là, moi je dis, après, on fait de l'activité physique. Et là, on peut être dans le domaine du jeu. Mais justement, le sport, ce n'est pas un jeu, parce qu'il faut nécessairement gagner. Et d'ailleurs, Coubertin le disait. Il faut le concours, il faut, disait-il même, la liberté de l'excès. Et la devise olympique, plus haut, plus vite, plus fort. Et effectivement, la devise olympique prouve bien que faut toujours plus.
Surenchère.
C'est la surenchère. C'est la compétition et c'est en même temps la compétition généralisée. C'est-à-dire, on est en concurrence et puis on monte, on descend, etc. Hein, selon un système de hiérarchique. Et pour être le plus fort, effectivement, eh bien, il faut être le chef de quelque chose, il faut travailler. D'ailleurs, vous entendez le discours. Toutes les valeurs qui sont véhiculées par le sport sont des valeurs qui, finalement, ne remettent jamais finalement en cause l'ordre. Le sport, c'est toujours un facteur d'ordre. Et on le voit très très bien. On me dit toujours, bah oui, le sport, c'est une culture. Bah, ça dépend. C'est une culture au sens, effectivement, c'est une activité dans une société. Mais au sens de d'homme éduqué, d'éducation, je dis que le sport n'est pas une culture. Pour une simple raison, c'est que le sport, d'abord, c'est un bloc monolithique. Vous ne pouvez pas échapper aux règles et à la compétition du sport, que vous soyez en bas ou en haut de l'échelle, que vous fassiez un 60 mètres en minime en scolaire ou que vous fassiez une finale olympique, c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Et ce qui compte en sport, c'est finalement le résultat. C'est pas, y a aucune création réelle. Je veux dire, on a beau me dire que Zidane, c'est un grand créateur, je suis désolé, on peut faire des comparaisons, mais Zidane, c'est pas la 9e symphonie de Beethoven, une reprise de volée. Hein. Et donc, je dis que le sport, c'est quand même avant tout un facteur d'ordre. Et on voit très très bien qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui, dans certains pays, entre autres les dictatures, ont été interdits. On n'a jamais vu de sportifs interdits. Au contraire, le sport a toujours été à l'appui des pouvoirs les plus forts.
Il dit qu'il s'est pas dopé ou alors à l'insu de son plein gré, comme Richard Virenc, Marco Pantaloni et Laurent Jalabert.
Ben Richard...
Arrêtez ! Faut laisser les cyclistes tranquilles. Il y en a chacun des soupçonneurs. Vous allez voir, personne va le faire, votre Tour de France. Je vous préviens, si je suis le seul à le faire, eh ben, je le fais quand même, je l'ai jamais gagné.
Alors Michel Kaya, qui anime le mouvement critique du sport, oppose les intellectuels et les sportifs. Dans les dictatures, effectivement, les uns et les autres ne connaissent pas les mêmes pressions ni les mêmes sorts. Mais on pourrait quand même lui faire observer que si on supprimait tout ce qui a été produit intellectuel par des intellectuels ou des artistes, tout ce qui a été produit sous l'empire de substances illicites, si on supprimait toutes ces œuvres, il y a beaucoup de choses qui sortiraient de nos bibliothèques et de nos musées et de nos musiques. On pourrait objecter ça. On pourrait, de Bukowski à qui vous voudrez, à Charlie Parker, on a une quantité comme ça, sans parler de Baudelaire et de Cocteau et d'Antonin Artaud. Enfin, on en voit des Chet Baker, etc. On voit que beaucoup d'œuvres, de chefs-d'œuvre qui nous éclairent et qui nous font vibrer et qui nous interrogent et qui nous, eh bien, ont été produites. Alors, grâce à ou malgré. Ça, c'est une histoire compliquée. On voit bien que quand on essaye d'aller vers ces sujets, sans se contenter de condamnation morale a priori, on débouche sur une complexité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous disait Willy Voet à l'instant, c'est qu'en matière de contrôle, pour revenir plus étroitement au sport et au seul cyclisme, c'est qu'en matière de contrôle, le contrôle arrive toujours trop tard, parce qu'on peut créer des dopants à l'infini. Il faut avoir ça présent à l'esprit. Et puis, actuellement, des manipulations génétiques permettent d'obtenir des super souris, des souris dotées d'une musculature extraordinaire. Et évidemment, certains imaginent déjà de transposer ces techniques pour produire des super athlètes. Autant dire que un jour, on pourra se passer du dopage médicamenteux et aller plus loin. Jusqu'où ira-t-on dans l'escalade imposée par le sport spectacle, Willy Voet?
Oui, vous diriez-vous que ces années-là que vous avez connues, si on en reste à celles que vous avez connues, les gagnants, les champions, c'était les champions de la triche?
Non.
Ceux qui se dopaient pas n'arrivaient pas au résultat.
Ils arrivent un demi-heure après les autres, hein. C'est tout simple. C'est une compétition hors compétition, si je peux dire, parce que même si on a le bon produit, il faut savoir les utiliser aussi. Et c'est pour ça il y a certains docteurs qui sont mieux que des autres. Alors c'est une compétition En compétition, c'est comme on met le docteur au podium avec le coureur, quoi. C'est comme en Formule 1, quand on met l'ingénieur avec les pilotes sur le podium. Ça, c'est un peu comme ça. On dit souvent, si on arrête tout, on prend plus de produits, ce sera le même classement. Et ça, c'est pas vrai, par contre. Ça, c'est pas vrai, par contre, parce que il y a des gens qui ont un taux de testostérone plus haut que les autres. Il y a des gens qui ont un taux d'hématocrite plus haut que les autres. Et c'est ce moment-là, tous ces gens-là, qui ont un avantage naturel, qui vont être là.
Donc c'est celui qui supporte le mieux les, voilà, la dope.
C'est ça. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Si on enlève tout le produit, ça sera pas forcément le même classement. Et c'est pour ça, moi je dis, s'ils veulent faire de nouvelles règles, il faut enlever tous ces records, parce qu'il y en a plein de records qui ont été faits avec des produits, quoi. Et nous, on le voit pas comme tricherie, parce que le type, il triche pas entre eux, je trouve. Enfin, nous on disait ça, parce que entre eux, ils trichent pas. Par contre, ils trichent avec eux-mêmes, parce que ils déplacent leurs limites. Et surtout, ils trichent avec le spectateur. Qui voit le mec monter l'école avec la bouche ouverte quand le mec il monte à 30 à l'heure le col de Madeleine. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Tu admires encore le coureur? Mais je les ai jamais admirés. Depuis que je suis soigneur, je les ai jamais admirés. Je les ai toujours respectés. J'ai toujours dit, c'est des athlètes à haut niveau qu'il faut bosser parce que ça sera trop facile de mettre une piqûre dans la fesse et gagner les Tours de France. Ça, c'est pas vrai. Je les ai toujours respectés. Mais admirer, je les ai jamais admirés parce que je sais qu'est-ce qui se les mettait dans le fesse. Donc, le plus bas, c'est moi qui l'a mis. Alors, c'est pour ça que je dis, non, on peut pas les admirer. Et c'est pas des exemples pour les jeunes non plus. Les jeunes, ils regardent ça comme des dieux, presque. C'est, je comprends, les jeunes, mais c'est pas des exemples pour les jeunes, je pense. Je trouve pas.
C'est des dieux chimiques, quoi.
C'est des dieux chimiques, voilà. Ils sont sur un piédestal et surtout, on peut pas la faire tomber de ce piédestal parce qu'autrement, comme moi j'ai parlé aussi, c'est vrai, quand moi j'ai commencé à parler, je suis banni de ce milieu. Quand on est dans ce milieu et on commence à parler, qu'est-ce qui se passe? On est banni, on perd son boulot. J'ai trahi. J'ai vu des choses. On mettait un préservatif dans l'anus pour mettre des urines saines dans l'anus. Donc,
dans l'anus.
Et avec un petit tuyau derrière les bourses, ça sortait et comme ça, on arrangeait le contrôle. Parce que le mec, il était positif, on savait. S'il pisse, il est positif. Donc, on avait un système, un petit tuyau. Au bout de ce petit tuyau, une capote, le capote, on le met dans l'anus, et avec une grosse seringue, on injecte dans le petit tuyau devant, l'urine est sain, la capote, il se déroule dans l'anus, et il va au contrôle comme ça, ils peuvent se déshabiller, parce qu'en général, quand on va au contrôle, le docteur, si on tombe sur un docteur sévère, il te met à poil, il te met toute nue. Donc, comment on peut tricher? On peut pas tricher. On voit, la belle vitrine, mais on voit pas l'arrière-boutique, quoi. C'est ça, hein, aussi. On voit la belle vitrine, le mec au podium, le mec, là, quand il monte l'école, tout ça. C'est ça, la belle vitrine, mais après, l'arrière-boutique, qu'est-ce qui se passe pour arriver là? Ça, on voit pas. Quelque part, ouais, si on le voit comme ça, c'est sale, ouais.
C'est sale.
Alors, j'ai fait pendant 30 ans un sale travail. C'est, ouais. Peut-être. C'est dur à dire que c'est sale. C'est dur. Ça devait exploser, hein, parce que ma femme, elle m'a toujours dit, tu peux pas aller plus haut, hein. Là, c'est bon, hein. Là, tu peux pas aller. Le jour que vous cassez la gueule, ça va faire mal. Parce qu'elle attendait le coup de fil, en code. en code. On parlait encore de trucs, machin, de boulons de 15, de chaînes de 13, de boulons.
La chaîne de 13, c'était quoi?
C'était le testostérone. On avait le boulon de 15, on avait des boulons de 20, on avait des boulons, c'était les PO, de 15, de 1500, il y en avait de 20, c'était de 2000. L'hormone de croissance, c'était la vitamine F.
Et la seringue, ça s'appelle comment?
Le stylo.
Ah oui?
C'était le porte-plume ou le stylo. Tu n'as pas un porte-plume de 5 ou un porte-plume de 10, voilà.
Et pour parler des gars qui étaient chargés, on disait comment?
La soupe, elle était bonne hier, tu vois. Hein? La soupe était bonne. Hein? Ah oui. Ou le poisson, il était pas mal non plus. Ça se disait déjà à l'époque d'Anquetil, ça. Qu'est-ce qu'on disait encore? Ouais, il est pas tout seul aujourd'hui. Il est pas tout seul sur son vélo, lui. Ah oui, il a amené son copain. Et quand Virenque, qu'il est monté professionnel chez nous, chez RMO, il voulait tout savoir. Il était curieux. Mais c'est pas un défaut, c'est plutôt positif, quoi. Il voulait tout savoir, il voulait tout apprendre, il voulait tout. Alors, il m'a dit, mais toi, tu veux tout savoir. Tu sais que t'as 21 ans, t'as le temps pour tout apprendre. Et Madio, il lui disait, toi, mon gars, toi, tu vas finir chaudière, toi. Chaudière, c'est un mec qui se charge, quoi.
Ah ouais.
Et lui, il disait, toi, tu vas finir chaudière. Ah bon? Il disait, là, toujours, ah bon?
Armstrong est en train de produire son effort, c'est incroyable. Plus il se rapproche du calendrier et plus il accélère. C'est vraiment prodigieux.
Ah oui, là, c'est remarquable hein, ce qu'il est en train de faire, Armstrong. Là.
Oui, et dire qu'il y a 2 ans, le donné presque mort atteint un cancer. Vraiment, quelle magnifique revanche sur la vie. Hein.
Patrick.
Oui, Jean-Paul Olivier avec la moto numéro 2.
Marco Pantani revient sur Armstrong.
Oh là 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 là.
Et à 30 secondes, il va très vite.
30 secondes, Pantani, ça, alors ça, c'est une surprise.
Ah oui, dis donc, il va très très vite. Là, Pantani, il suce la roue d'Armstrong, hein, il va le sauter, c'est fait.
Formidable, là, ce
Marco Pantani qui même a eu la gentillesse de prendre en stop une petite fille qui a perdu ses parents dans la foule.
Ah, ça c'est extraordinaire, Bernard, quand on pense qu'il y a 5 mois, Pantani était sur le point d'abandonner le vélo.
Ah oui, là c'est remarquable hein, ce qu'il est en train de faire là. C'est une leçon de vélo, hein, là.
Patrick, Richard Virenque vient de s'échapper du groupe Eto. Il est à 1 minute 30 de Pantani.
Alors ça nous fait plaisir, hein. Richard qui revient à la course.
Ah oui, il l'avait dit, hein, qu'il voulait faire quelque chose aujourd'hui. Il l'avait dit, hein.
Gérard, on peut pas continuer à cautionner ça.
J'arrive.
Prenne des produits, c'est sûr. Une étape de montagne de 1230 km en 1h25.
Écoute, on n'est pas là pour juger, on est là pour montrer la beauté du sport.
Est-ce que vous connaissiez des journalistes qui savaient très bien ce que vous faisiez, et les médecins, et dans les autres équipes, etc., et qui étaient complices, qui disaient rien?
Bien sûr qu'il y en a. Il y en a plein. Moi, je me rappelle toujours... On faisait, avec Virenque, on faisait un téléthon.
Un téléthon?
Oui. Et on faisait des vélos pendant une bonne partie de la nuit. Et alors, il y avait quelques journalistes connus. Et ils sont venus quand même de me demander que j'avais rien pour passer la nuit, quoi. Pour être bien, poursuivre dans les roues et tout ça. Alors, oui, je l'ai dépanné, je l'ai donné. Et ça, c'est gonflant, parce que ça, c'est, après mon affaire, c'était, il y en avait certaines qui te font le moral, quoi.
Les mêmes qui vous demandaient des petits coups de pouce.
Alors ça, c'est quelque part, c'est un peu ennuyant, hein, c'est un peu révoltant, quoi. Mais, oh là là, il faut surtout pas parler de dopage, hein. Surtout pas. Surtout pas, parce que j'en connais quelques-uns qui sont des années et ils savent bien, ils ont eu contact avec Anquetil, avec Bobet, avec...
Est-ce que tout ça, Anquetil, Bobet, tout ça, c'est
Anquetil,
tout ça.
Il a dit ouvertement. Et il m'a dit, moi je me dope parce que les autres ils se dopent. Il dit, moi je peux pas aller avec une catapulte à la guerre quand les autres ils ont de bazookas. Copy, c'était pareil. Lui, il parlait toujours de la bombe. De la bombe, il dit oui, monsieur Copy, vous êtes dopé. Oui, je prends de la bombe, mais la bombe, vous le prenez quand c'est nécessaire. Il disait Copy, c'est nécessaire quand? À chaque fois quand je fais des vélos, il disait. Cherche-nous une solution. C'est ça qu'ils ont raté. Hein. Quand moi je me suis fait choper, tout le monde a montré le doigt à Festina parce que c'était nous le seul dopé. Tous les autres équipes ils ont dit il faut virer Festina, c'est des tricheurs, c'est des trucs.
Oui, c'est ça. le mouton galeux, quoi.
Voilà. C'est honteux, c'est scandaleux, parce que, il y a combien d'équipes en France aujourd'hui? 5 ou 6. Et sur ces 5 ou 6 équipes, leur directeur sportif, je l'ai eu, personnellement eu, comme coureur. J'étais leur soigneur. Je sais qu'est-ce qu'ils se sont mis dans les fesses. Alors, ils disent, Festina, c'est des tricheurs. Alors, non, mais attends, il faut qu'on arrête là, parce que c'est n'importe quoi.
Alors, évidemment, pour un Willy Voot qui parle, beaucoup se taisent. Est-ce que ça veut dire que ceux qui se taisent sont tous des pourris, tous des complices? Ça fait beaucoup de monde. Il y a les sportifs, bien sûr, mais il y a les organisateurs, les journalistes, les médecins, qui seraient donc autant de collabos sans état d'âme. Mais non, il y a beaucoup d'arguments qu'on peut tout à fait imaginer sans peine. Si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Ça a toujours été et ce sera toujours. Le public a besoin de rêver. Les sportifs sont eux-mêmes des demandeurs. Il faut bien mourir de quelque chose. Il faut prendre des risques dans la vie, etc. Il y a des batteries d'arguments qui permettent de collaborer à ça sans aucun problème ou sans beaucoup de problèmes. On revient vers Michel Kaya, sociologue, et qui anime le mouvement Critique du Sport.
Est-ce que vous considérez que le dopage gangrène le sport?
Dire qu'il gangrène, non, il gangrène l'idéal sportif, mais gangrène, c'est pas dire grand-chose. Le sport se présente comme quelque chose de pur, et le mouvement sportif donc a fixé des règles. À partir du moment où il y a des impuretés, le dopage en est une pour le mouvement sportif, donc il sanctionne. Voilà, c'est son rôle. Et moi, ce que je dis, c'est que le sport, par lui-même, il crée ses propres perversions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une logique, qui est la logique institutionnelle de production de performance, de résultats, de records. Vous ne pouvez pas demander effectivement à des gens de se dépasser en permanence, de gagner par tous les moyens, sans au bout du compte effectivement qu'il y ait le dopage. Et donc le dopage est intrinsèque à la pratique sportive. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe depuis l'origine du sport. C'est quelque chose effectivement qui est incontournable en gros. On peut pas imaginer que le dopage physique, et je parlerai peut-être aussi du dopage mental, on peut pas imaginer un sport sans dopage, pas plus qu'on peut imaginer effectivement dans un système capitaliste sans argent. C'est-à-dire que on voit pas comment on pourrait supprimer le dopage du système sportif, pas plus qu'on peut supprimer l'argent dans un système dont la loi dominante est le profit. La première loi en France date de 1965, et si vous lisez les déclarations de l'époque du principal responsable, qui était le colonel Marceau Crespin, qui était le directeur des sports, il disait le dopage est un fléau, ça a trop duré, l'État peut pas supporter que la santé des jeunes soit ruinée ainsi. On est en 1965, 40 ans plus tard, on n'en est plus aux amphétamines, on en est à autre chose, et la santé est plus que jamais mise en danger, parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Alors toutes ces agitations, colloques, réunions, etc., ce que j'appelle une production symbolique. C'est-à-dire, on fait plaisir, on fait semblant, bon, ça satisfait en gros le mouvement sportif, ça satisfait le public, hein, on édicte des lois, on sanctionne...
On est dans l'éthique.
Voilà, on sanctionne quelques coureurs, mais au bout du compte, bon, politiquement c'est rentable, mais ce sont des mesures qui sont totalement inefficaces. Et on le voit bien, c'est que depuis 40 ans, toutes les mesures ont été totalement inefficaces. Eh bien oui, parce qu'effectivement, on peut pas... faire du sport à haut niveau et estimer que le sport finalement c'est le progrès, parce que aussi il y a ça, une des valeurs du sport c'est de dire c'est le progrès, et que plus on monte dans les records, plus on a de beaux résultats, mieux c'est pour l'homme. C'est fort discutable, mais c'est un peu l'idéologie du sport. Et donc vous pouvez pas demander à des gens de souffrir, etc., ben, sans qu'ils utilisent les moyens, même les moyens les plus interdits, et c'est toujours plus. Oui.
C'est intéressant l'idée de progrès et de sport.
C'est l'idéologie du progrès sans fin, d'ailleurs, le sport, hein, toujours plus. Le problème, c'est que, même à gauche, et à une époque, le Parti communiste, qui disait toujours qu'effectivement, le progrès sportif, c'était le progrès humain. Bon. Et moi, je pense qu'il manque l'inverse, c'est-à-dire que les progrès du sport ne se font toujours que contre l'homme. C'est-à-dire que plus faut monter dans les performances, plus finalement, l'homme disparaît. parce que son corps disparaît lui-même, parce qu'il devient une espèce de machine. Son corps et son esprit, parce qu'il y a le dopage physique avec ses dramatiques conséquences, hein, qui peuvent être des cancers, des problèmes osseux, pour les femmes des problèmes d'aménorrhée, etc., etc., et bien d'autres choses, des dépressions. Et puis aussi le dopage mental, hein, qui est très important, c'est-à-dire que de plus en plus, effectivement, les sportifs sont dans une espèce de bulle, hein, qui fait que faut supprimer les angoisses, qu'ils soient conditionnés au maximum, qu'ils obsessionnalisent, comme on dit, obsessionnaliser la victoire, les résultats, etc., etc. Faut qu'il n'y ait rien qui puisse les empêcher de penser à la victoire. Et ça, c'est le dopage mental, qui est très important aussi, qu'on oublie souvent que dans ces camps d'entraînement qui ne sont pas réservés à l'Est, mais qu'on trouve aussi, entre autres, à l'INSEP, etc., il y a les gens sont non seulement dopés physiquement, la plupart du temps, mais aussi dopés mentalement.
Camp d'entraînement, dopage mental, c'est fort tout ça. Il y en a un qui a décroché, c'est Willy Wood, qui habite à Gap aujourd'hui.
Et oui, aujourd'hui, maintenant, vous êtes chauffeur de bus, là?
Oui.
Vous avez repris une vie modeste, quoi.
Ben oui, ça va bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, quoi. Les gens qui me parlent, c'est des gens qui ont compris que j'étais le mouton noir, que j'étais un fusible qui a sauté. Et les gens qui sont pas d'accord, ils sont pas assez courageux de dire que j'étais un lâche, que j'étais tout balancé, tout. Les gens qui ont cette idée-là, ils te regardent de loin et ils te parlent pas. Et c'est vrai, c'était une autre vie. Le soir, le matin, je prends mon service. Le soir, je range mon car et c'est fini. Plus de problèmes de taux d'hématocrite, taux d'hémoglobine. Non. Contrôler les prises de sang et tout ça. Bon, c'était fatigant à la fin. Je me suis rendu compte après que c'était fatigant. Parce que quand on est dedans, on le sent pas. Mais c'est après, quand je disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai joué avec... C'est vrai, on se rend pas compte, hein. On a joué souvent avec du feu, hein. On a passé des fois, quelques fois, tout près de se brûler les doigts, quoi. Maintenant, je dis, c'est n'importe quoi. Enfin.
Merci à Willy Wood. Il est auteur de plusieurs bouquins, dont un récent chez Flammarion, 50 ans de tour pendable. Merci aussi à Michel Caillat du mouvement Critique du Sport. Merci aussi à Yann Parentoen pour ses images sonores qu'il nous a confiées. Vous savez que Yann Parentoen est un spécialiste du Paris-Roubaix. Un de nos maîtres en son. Reportage Thierry Scharf, technique aujourd'hui Lydvin Caron et Olivier Daligo, répondeur Christophe Humbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, assistant Yann Chouquet, et c'est quoi Yann Guyenne qui a réalisé cette émission modeste et géniale, la réclame.